C'était les Cowboys Fringants qui chantaient, ce groupe bien connu pour son engagement envers la cause environnementale. Ils ont d'ailleurs une fondation dédiée à cette cause. Je vous invite à voir l'exposition sur les Cowboys Fringants présentée jusqu'en octobre à l'espace culturel de Repentigny, une exposition qui présente une scénographie participative. Alors, cette toute première rétrospective pose un regard sur la carrière exceptionnelle de ce groupe musical phare de la culture québécoise qui se démarque par sa longévité et son succès remarquable depuis plus de 25 ans. Alors, voilà notre façon d'introduire notre chroniqueur environnement aujourd'hui, Mathieu Laneuville. Bonjour.
Bonjour, Madame Lavoie.
Bon, alors, on avait entamé une grande discussion sur l'eau la semaine dernière.
Et puis, oui, bon, ça va être un plaisir de la poursuivre ensemble.
C'est ça, donc, on parlait du cycle urbain de l'eau la semaine dernière, le chemin jusqu'à notre robinet et évidemment le retour aussi de notre robinet, au fleuve, c'est ça, le retour par la suite. Et puis là, cette semaine, on va encore parler d'eau, mais d'une façon différente. Là, on va parler de nos fameuses réserves en eau douce.
Tout à fait. Puis ça va faire un beau lien avec justement avec la chanson des Cowboys Fringants.
Mais oui, c'était prévu.
On avait une eau pure et limpide.
C'est ça, exactement. Alors, donc, nos réserves d'eau douce qui sont si importantes, hein, une de nos plus grandes richesses naturelles et collectives ici même au Québec, d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, comme on mentionnait la semaine dernière, on sait qu'au Québec, quand même, on a 3% des réserves d'eau douce. Le fleuve Saint-Laurent aussi, là, au niveau de la biodiversité, c'est un lieu unique sur la planète. Et évidemment, nos lacs, nos ruisseaux, nos rivières, c'est vraiment une ressource là qui est précieuse et qu'on a la chance, comparativement à l'Asie ou à l'Europe, qu'on a encore des chances de pouvoir la préserver et de la garder d'une super bonne qualité. Alors,
c'est ça.
Encore temps d'agir.
Oui, effectivement, parce que c'est pas une ressource naturelle qui est infinie non plus, là. Faut quand même se le dire. Et puis, on a beaucoup de nos lacs aussi qui, parfois, bon, vous savez, il y a des plantes envahissantes ou enfin, il y a des contaminations aussi qui se font exactement, enfin, dans nos lacs également, dans nos rivières et tout.
C'est bien le cas. Alors, au niveau des lacs, on a souvent des enjeux de phosphore qui peuvent venir de provenance du milieu agricole, de provenance du milieu municipal aussi au niveau des traitements de nos eaux. Et c'est pour ça que Réseau Environnement, ça fait 45 ans qu'on accompagne les municipalités là, en économie d'eau, parce que un des gros enjeux qu'on voulait parler aujourd'hui, c'est justement faire le lien de cette ressource-là pour la protéger avec l'économie d'eau, parce qu'évidemment, plus qu'on est rationnel dans notre utilisation, mais évidemment, plus qu'on prend soin de cette ressource-là.
Bon, alors on fait ça comment?
Alors,
c'est une grande question, hein? C'est une grande question.
Oui, alors, si on parle des citoyens et citoyennes à la maison, simplement changer le clapet d'une toilette qui fuit, ça peut réduire de moitié la consommation d'eau à la maison. Alors, faut savoir qu'il y a des trucs comme ça là, qui sont très bien. Quand on parle aussi de tout ce qui est usage extérieur, maintenant, il y a des façons de récupérer de l'eau de pluie. On a beaucoup de pluie au printemps, on en a aussi pendant l'été, alors profiter de ces réserves-là pour faire de l'arrosage, parce que souvent l'été, nos consommations d'eau peuvent monter de 50% avec l'usage extérieur. Alors, on va vouloir encore une fois, là, c'est un autre truc, là, d'utiliser la récupération d'eau de pluie. Puis il y a des beaux programmes qui existent là, pour justement là, auprès des municipalités pour pouvoir s'équiper.
Ouais.
Puis à l'intérieur de la maison, probablement vous connaissez le label Energy Star.
Oui, absolument.
Bien, on a aussi le label au Québec qui s'appelle WaterSense, qui est une initiative de l'Environmental Protection Agency, l'EPA aux États-Unis. Et ça, ces logos-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça assure qu'on a des équipements qui sont performants, mais aussi économes en eau. Alors, on pense aux toilettes, on pense tout à notre robinetterie, on pense aux pommeaux de douche. Alors, s'équiper d'équipements WaterSense, c'est une autre bonne façon là, de pouvoir faire une différence là, en tant que citoyen, citoyenne.
Ouais. Et puis, bon, évidemment, il y a toutes sortes... on a parlé d'économiser l'eau de pluie, mais en fait, je pense que les gens, en général, sont quand même plus sensibilisés maintenant à cette problématique-là. Hein. On en a parlé tellement. Évidemment, vous savez, quand on parlait d'arroser les entrées de garage, les pelouses et tout, enfin les piscines aussi, qui peuvent être un enjeu important. Mais je pense que les gens sont quand même sensibles de plus en plus au gaspillage de l'eau et puis, au fait qu'il faut préserver cette ressource précieuse.
Oui, vous avez raison. Les gens sont de plus en plus conscients parce qu'il faut savoir que en économie d'énergie, en amont, on avait déjà fait beaucoup de travail quand même Hydro-Québec puis les nombreux partenaires pour sensibiliser, qu'on sensibilise les gens par rapport à l'économie d'énergie, mais l'économie d'eau, ça fait son bout de chemin, mais il reste encore du chemin à faire. Puis je pense pour ça qu'on a des émissions comme aujourd'hui avec des chroniques sur cet enjeu-là, parce que je pense qu'il n'y a personne qui se lève le matin pour dire hey, « je suis content, je gaspille de l'eau ». Souvent, on le fait, puis on n'a pas nécessairement conscience que, par exemple, notre toilette qui coule, mais ça peut doubler la consommation. Puis je pense qu'il faut retourner souvent au pourquoi. Pourquoi il faut économiser l'eau? Parce que souvent, on peut avoir l'impression qu'on est on a une abondance d'eau puis qu'on a une abondance d'une bonne qualité, mais c'est pas le cas nécessairement partout. Puis faut se remettre en situation aussi qu'actuellement, sur la planète, on a un accroissement de population qui est incroyable. Le Québec en fait partie. Et un accroissement de population, mais évidemment que ça exacerbe la pression sur nos ressources en eau. Tout comme les changements climatiques aussi, on le voit de plus en plus.
Mais oui.
Le plus grand impact des changements climatiques se répercute sur l'eau quand on parle de sécheresse l'été, mais aussi d'inondations au printemps. Alors, tous ces enjeux-là sont de plus en plus visibles. Puis je pense que le plus qu'on en parle, le plus qu'on va donner des trucs comme aujourd'hui, mais on va arriver à solutionner aussi pour un meilleur futur.
C'est ça, parce qu'on parle d'événements souvent extrêmes, mais bien sûr, le citoyen ordinaire, parfois aussi, a l'impression d'être un peu découragé parce qu'il y a les entreprises également. Il y a certaines industries qui sont de gros consommateurs d'eau. Alors, on a beau nous faire attention de notre côté, mais il y a aussi des entreprises qui gaspillent énormément d'eau, façon de parler, là. Bon, ils en ont besoin dans leur industrie, mais tout de même, c'est aussi problématique.
Oui, c'est un enjeu qui est bien adressé au Québec avec la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, où est-ce qu'actuellement, il y a 100 000 compteurs qui s'installent dans le secteur non résidentiel pour par la suite aussi avoir une tarification des services d'eau de façon plus volumétrique, c'est-à-dire donner un signal de prix et justement qu'on puisse encourager les municipalités, les entreprises qui sont plus responsables dans leur consommation à pouvoir justement être récompensées par une tarification qui en tient compte. Et d'autres entreprises qui voudraient faire le pas, bien, d'avoir aussi des gains économiques pour pouvoir justement effectuer ces changements-là. Alors, c'est sûr que les compteurs d'eau, la tarification dans le secteur non résidentiel, ça l'aide beaucoup. Il faut savoir aussi que les municipalités aussi font beaucoup, beaucoup de programmes de recherche de fuites proactives. C'est-à-dire que maintenant, on s'équipe de stéthoscope, un peu comme le médecin, mais on appelle ça des géophones, puis on écoute le réseau d'aqueduc sur nos poteaux d'incendie, puis on va trouver les fuites avant que les fuites nous trouvent. Alors évidemment que ça fait une grosse différence quand on limite les pertes d'eau sur les réseaux de distribution. Puis on mentionne aussi, là, il y a les municipalités, les industries qui font leur part, mais il faut savoir quand même que nous, en tant que citoyens, même si à la maison, on pense que c'est pas beaucoup, c'est quand même 50 à 60 de l'eau distribuée va pour de la consommation résidentielle au Québec. Alors,
ouais,
quand
même.
C'est sûr que tout le monde ensemble, on peut faire une différence.
Tout à fait. Bon, effectivement. Alors, les municipalités qui, effectivement, font des choses, notamment une tarification selon nos besoins, et puis ceux qui ont des piscines, ben, effectivement, s'ils gaspillent plus d'eau, ben voilà, ils ont une tarification en conséquence. Eh bien, Mathieu Laneuville, ça a été encore là très intéressant. Et puis, vous savez qu'on aurait tellement de choses à dire, hein, on pourrait parler très longuement. Alors, on vous retrouve?
Oui, vous allez retrouver mon collègue Jean Paquin la semaine prochaine pour l'importance du fleuve Saint-Laurent pour notre environnement.
Parfait, ben on sera là. Ben merci beaucoup, Mathieu.
Merci, Mme Lavoie.
À la prochaine et à bientôt, oui. Eh bien, vous tous, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente journée. Je remercie mes recherchistes, Camille Cusset, Méliane Fafard et Nicolas Wartmann.